Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Alors une émission un peu spéciale ce soir, car j'ai le plaisir de recevoir la revue Élément, qui fête ses 40 ans d'existence. Alors c'est pas la première fois qu'on a une partie de l'équipe de la rédaction dans ce studio. Et pour m'accompagner, bien sûr, et diriger cette émission, et par un heureux hasard, c'est à ma droite, c'est son rédacteur, à ma gauche, pardon, son rédacteur en chef, Pascal Estéric. Ça c'est, c'est comme ça, la droite, la gauche. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Nous avons dans le studio le plaisir d'avoir Olivier François. Bonsoir. Qui est journaliste à la revue Élément. Bonsoir Olivier. Et nous avons Michel Thibault, le directeur de publication d'Élément, mais aussi le président du CRAS.
Tout à fait. Bonsoir.
Alors c'est formidable. Nous aurons bien sûr tout à l'heure par téléphone deux des fondateurs de la revue, qui sont vraiment les piliers. C'est Alain de Benoît et Michel Marmin. Nous aurons tout à l'heure aussi Christian Brosio qui devrait pas tarder à arriver. Et nous verrons effectivement avec eux comment s'est fondée la revue, son évolution et bien sûr leurs différents souvenirs qui doivent être nombreux en 40 ans d'existence. Alors c'est en septembre 1973 que sort le numéro 1 de la revue Élément. Enfin, le titre exact, c'est « Éléments pour la civilisation européenne », qui ressemble au départ plutôt à un bulletin interne de l'association Le Grèce, car à l'époque, la revue phare de ce qui deviendra la Nouvelle Droite quelques années plus tard, c'est la revue Nouvelle École. Alors, bien sûr, de numéro en numéro, s'étoffe et autour du noyau dur, des jeunes rédacteurs vont se greffer un nombre d'écrivains et d'intellectuels impressionnants. On pourra trouver dans ces premiers numéros Jean Co, Louis Powels, Pierre Grépari, Louis Rougier, Jean Parvulesco et tant d'autres. Et cette revue va devenir, et il faut quand même l'admettre, alors moi en 73 j'étais très jeune, mais tout le monde vous disait qu'il y avait quand même une sorte de vide dans la pensée intellectuelle de droite qui était énorme. Soyons clairs, c'était une époque où la domination de la gauche était totale sur le plan culturel et intellectuel. Et j'ai l'impression quand même que 40 ans plus tard, les choses ont une tendance à s'inverser. Alors, mon cher Pascal Estéric, pour ces 40 ans, vous allez sortir un numéro exceptionnel où vous allez reprendre une partie. Il va y avoir un dossier reprenant les différents thèmes qui, depuis 40 ans, ont été amenés par la revue Élément. Pourquoi avoir fait un numéro? C'est un peu de la nostalgie, le côté vintage. C'est vrai que j'ai pas le droit de le dire, mais un peu vieillot, non?
Non. La raison est toute simple. La raison, c'est que nous avons de nouveaux lecteurs. La raison, c'est que depuis deux ans, nous avons 500 abonnés supplémentaires et plus de 1000 lecteurs nouveaux en kiosque. Et il fallait bien faire les présentations. Voilà la raison. La raison, c'est que à un moment donné, voilà, il faut. Nous avons décidé de nous présenter à ces nouveaux lecteurs qui ont finalement une vision de la revue Élément, parce que très peu de numéros sont finalement disponibles, une vingtaine au total, et qui ont une vision de la revue Élément qui n'est pas complète. Et donc, c'était l'occasion, ces 40 ans, l'occasion d'offrir aux lecteurs la profondeur et les trésors littéraires, politiques, de la revue Élément.
Alors effectivement, en travaillant pour cette émission et en reprenant ma collection d'éléments que j'ai pu trouver petit à petit, on s'aperçoit quand même qu'il y a eu des thèmes assez impressionnants qui aujourd'hui sont toujours d'actualité. Je pense à l'identité, la pensée unique, pour en finir avec l'Occident, les premiers textes sur l'écologie. Ma première question, on va faire un peu un tour de table, c'est, alors Michel Thibault, quel a été pour vous le premier souvenir marquant en tant que lecteur de cette revue?
Alors, ça a été une découverte et une fascination, car le fond, les textes, les thèmes abordés, qui étaient des thèmes politiques, mais aussi beaucoup il y avait de la littérature, il y avait de l'art, il y avait du cinéma. Et c'est la première fois, je crois, que je voyais une revue aussi complète. Et avec cette revue, il y avait aussi la forme. Il y avait une iconographie rare, marquante. Et je crois qu'encore aujourd'hui, toutes les personnes qui regardent d'anciens numéros d'éléments les regarde avec amour, parce que c'est vraiment quelque chose qui marque. Et il y avait de grands noms qui intervenaient, comme vous l'avez dit. Il y a eu Jean Varenne, il y a eu Dumézil, l'interview de Conrad Lorenz, des thèmes nouveaux sur les mythes européens, sur le paganisme. Donc en fait, des couvertures aussi marquantes comme celle sur Autant Lara. Mmh. Je crois que c'était un numéro aussi passionnant.
Puis avec un style qui, parce que les auteurs d'éléments travaillaient déjà une partie pour Nouvelle École, mais avec un style beaucoup plus journalistique que Nouvelle École, qui était une revue quand même très universitaire
voilà.
Dans sa façon de.
Alors ça, c'est très important, même effectivement toujours à rappeler, c'est que Élément doit être la revue la plus lisible, la plus abordable pour les personnes. Derrière, il y a Nouvelle École et Crisis qui viennent compléter. Mais la force d'Élément, c'est des textes passionnants et une iconographie qui correspond bien au texte et puis qui est nouvelle. Je crois qu'Élément a fait découvrir des artistes comme Gustave Vigeland. C'est quelque chose de très important. C'est l'équilibre des deux, de la forme et du fond, je crois, qui fascine dans cette revue.
Christian Brosio, qui vient de nous rejoindre dans le studio, que je présente pas, tout le monde vous connaît à Radio Courtoisie. Vous êtes à la tête de Spectacle du Monde, donc vous avez l'habitude d'avoir de mettre en place une revue. Qu'est-ce qui vous a frappé la première fois que vous avez eu Élément dans les mains?
Alors le premier numéro d'Élément qui m'a vraiment frappé, c'était en 1979, février ou mars 1979. J'étais militaire à l'époque et en permission à Lyon, et je fouillais toutes les librairies, tous les marchands de journaux à la recherche de toutes les revues possibles, imaginables. Et je connaissais déjà Élément, enfin j'avais déjà eu des numéros entre les mains au cours des 2-3 années précédentes, parce que j'avais découvert entre temps le numéro de Nouvelle École sur l'Amérique qui m'avait beaucoup frappé et qui a été, je crois, déterminant. Absolument. Mais le premier numéro qui m'a vraiment frappé, c'était donc en février ou mars 79, où je tombe, c'était un numéro dont j'ai oublié le titre parce que je ne l'ai pas, j'ai pas eu le temps de le rechercher, mais il y avait un article absolument passionnant et qui me paraissait extrêmement novateur et tout à fait donc dans la ligne de ce qui est Élément était et ne cessera d'être, c'est-à-dire de titiller un peu et de bousculer la paresse intellectuelle de la droite. C'était un article formidable contre le général Pinochet, contre le Chili du général Pinochet, et contre, alors que toute la droite n'avait que feu lait auprès du général Pinochet.
Le général Pinochet, le franc-maçon, de bien connu.
Le franc-maçon, mais qui, l'alliance du sable, du goupillon et de l'équerre, si vous voulez dire, hein, c'est selon cet article faisait très bien le point sur ce qu'était effectivement la dictature des Chicago Boys. C'était la première expérimentation des Chicago Boys et donc du néolibéralisme, ce qui allait nous tomber dessus ensuite. Et je me souviens que cet article, alors je ne l'ai pas relu récemment, mais je l'ai quand même relu il y a 2-3 ans, et il était extrêmement prémonitoire tout ce qui allait se passer par la suite. Il annonçait évidemment Thatcher qui arrivait la même année, qui arrivera à la fin de la même année. Et puis Reagan, et tout ça est très lié, et donc à l'époque ça m'avait paru extrêmement intéressant et tout à fait, et ça me paraissait très juste, la démonstration me paraissait tout à fait juste, mais l'avenir, quand on le voit rétrospectivement, on voit qu'il y avait une très grande lucidité, et je pense que dans ce qui est situé à droite, je pense que Élément était vraiment en pointe dans ce domaine du point de vue de la lucidité et de remettre les choses en place.
Olivier François, pareil, votre premier numéro.
Premier numéro, ça a été plusieurs numéros en quelque sorte. Moi, j'étais d'abord tombé sur un article d'Alain de Benoît, je ne sais plus dans quel numéro, où il citait cette phrase d'Ortega y Gasset, qui est, je crois, être de droite ou de gauche, c'est être un hémiplégique intellectuellement. Et ça m'avait un peu troublé. Moi, à l'époque, je fréquentais plutôt les milieux d'Action française, même si les milieux d'Action française ont un rapport à la droite, parfois, ces milieux-là disent qu'ils sont de la droite et de la gauche.
C'est ce que nous avons en commun, mon cher Olivier.
C'est exactement ce qu'on a en commun, cher Christian. Et donc, ça m'avait poussé à lire Éléments, parce que je trouvais que, d'abord, je connaissais pas la phrase d'Ortega y Gasset. Alain de Benoît, à l'époque, dans les milieux que je fréquentais, était parfois considéré comme une sorte de
d'antéchrist,
en quelque sorte. Donc, j'étais tombé, en fait, je crois, sur un numéro sur le localisme. Et ce qui m'a toujours tout de suite plu,
numéro 100,
alors vous allez m'arrêter, mais je crois que c'était un numéro de la fin des années 90 ou du début des années 2000. Et ce qui m'avait marqué dans les numéros d'Éléments, je pourrais en citer beaucoup, mais il y avait aussi un numéro sur il y en a plein qui me viennent à l'esprit, mais bon, voilà. Mais c'est une découverte assez confuse parce que j'avais 20 ans. Et ce qui m'avait marqué dans les premiers numéros d'Éléments que j'ai lus, c'est justement ce dépassement de l'hémiplégie, où on pouvait à la fois parler intelligemment de Drieu La Rochelle, non pas de manière fétichiste, en disant il faut parler de Drieu La Rochelle parce que c'est un collabo, et en même temps une ouverture sur Castoriadis, sur des thématiques de gauche, sur un anti-libéralisme, un intérêt pour les pensées qui ne sont pas évidemment de notre famille. Parce que je reproche beaucoup à la droite, si la gauche est très sectaire, c'est que, pour reprendre ce vieux chant des Camelots du Roi, notre force est d'avoir raison. Mais notre force est d'avoir raison, mais ça fait peut-être 100 ans qu'on a raison. Il faudrait peut-être s'ouvrir à d'autres pensées.
La gauche est très sectaire et la droite est très paresseuse.
Exactement.
Il y a une phrase aussi que j'aime beaucoup. C'est Alain de Benoît qui avait dit entre une idée belle et une idée juste, je préfère l'idée juste. Et c'est ça le problème avec la gauche. Elle a de belles idées, mais elles sont fausses.
Oui. Et je voudrais rajouter une chose sur l'ouverture d'Éléments. C'est l'époque où je découvre Éléments, donc début des années 2000, il y avait une rétrospective Gérard Blin au Champeau. Et Dieu sait si Gérard Blin a été proche de manière indirecte de notre vue.
Il a collaboré, écrit dans Éléments.
Voilà, donc par Michel Marmin, vous allez peut-être interviewer tout à l'heure. Et j'avais vu Le Pélican, qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Et Pierre et Jamila, dont le scénario a été écrit par un collaborateur éminent d'Éléments, qui est Michel Marmin. Donc en fait, tout ça correspondait à la fois à mon intérêt pour le cinéma, mais je ne savais pas que Michel Marmin était le scénariste de Gérard Blin, et ma découverte d'Alain de Benoît, puis d'Éléments, évidemment. On pourrait citer Pierre Le Vigan, de vieux numéros aussi sur le socialisme des années 80, puis qui se trouvaient dans certaines
les
librairies.
Deux visages du socialisme.
Les deux visages du socialisme, etc. Et donc j'ai découvert tout un monde.
Que c'est pas une revue qui, on l'encense, et j'avoue que depuis quelques numéros, mon cher Pascal, tout le monde félicite la revue Éléments, mais enfin, il y a eu quand même des crispations à droite. On va prendre, déjà dans le numéro 2, il y a simplement ils sont pour la loi Veil et pour l'avortement, ce qui pose problème. Mais le grand scandale de la nouvelle droite, c'est quand même vis-à-vis de l'Amérique. C'est-à-dire qu'ils sont clairement, ils disent l'ennemi principal, c'est l'Amérique, pour une droite qui est, à l'époque, le général de Gaulle est parti depuis longtemps. On est sous l'époque de Pompidou, ensuite Giscard, etc. La guerre froide, ça c'est quelque chose qui passe pas. Pascal.
Oui, il y a eu, vous faites bien de le rappeler, ça n'est pas l'histoire de, et c'est ça qui, c'est ce qui la rend passionnante, c'est que ce n'est pas un chemin tranquille. C'est au contraire un chemin parsemé d'embûches, de batailles idéologiques très fortes. Vous avez cité donc la question de l'avortement, la question de l'Amérique. Il y a eu la question religieuse, il y a eu la question du paganisme, il y a eu dans les années, la question de la troisième voie entre ni un alignement au départ, ni un alignement sur l'Amérique, ni sur l'Union soviétique. Il y a eu des numéros, il y a eu effectivement des numéros sur Europe tiers monde même combat, qui n'étaient quand même pas dans le logiciel droitier, qui était quand même assez difficile à faire. Il y a eu des tout bêtement un numéro sur le terrorisme en 86 en pleine faire des grands entretiens avec Jacques Vergès, c'était un peu, ouais. Enfin c'était pas si pour un logiciel, enfin oui je me répète, mais pour pour la droite c'était quand même assez voilà. Et ce qui est constant dans l'histoire d'Éléments, c'est ce qui la rend intéressante, et en même temps, je le comprends d'ailleurs, c'est ce qui la rend peut-être insupportable à certains, c'est ce souci de penser contre, quoi. C'est le souci de la pensée critique. Et quand Éléments, il y a eu des périodes d'ailleurs, hein, quand Éléments s'assoupit, ça dure pas très longtemps, mais on le voit.
Oui, parce qu'il y en a qui reprochent de temps en temps. Effectivement, il y a des périodes. Mais alors, ce qui est très marrant, c'est que quand vous dites oui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des périodes où ils se sont un peu assoupis ou qui ont été systématiquement contre la pensée dominante. Et on disait c'est pour se faire remarquer. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand vous demandez à trois personnes, c'est jamais la même période.
C'est jamais la même période.
C'est une revue effectivement qui a dérangé. Il y a eu un numéro sur l'immigration qui avait beaucoup fait couler d'encre. Justement, ce côté systématique qu'ils ont eu, est-ce que ça a été, il y a un moment, on va faire un peu de critique quand même,
bien sûr.
Ça n'a pas été un moment une sorte de mode pour se détacher à chaque fois de la droite? On avait une impression que pour exister intellectuellement, il y a eu une période où on préférait aller vers les intellectuels de gauche et critiquer les intellectuels de droite.
Christian Brosiou l'a rappelé, c'est que le problème de la droite et de la pensée, c'est que la droite est assez paresseuse.
Elle est assez paresseuse, très paresseuse. Donc, il y a de plus en plus d'ailleurs. C'est ça le problème.
On pourrait dire aussi que sur beaucoup de questions où la droite traditionnelle ou éternelle, certains aiment bien ce terme-là, un peu à la Evola, aurait dû être présente. Moi, je pense à la question de l'écologie, la droite a été absente.
Oui,
bien sûr.
Et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas creuser, par exemple, la question de la décroissance, critique de l'idéologie du progrès, la question d'antilibéralisme et de l'éloge que certains hommes de droite d'ailleurs, qui étaient, je pense d'ailleurs à certains clubs qui faisaient l'éloge de Reagan ou qui faisaient l'éloge de la pensée thatcherienne. La pensée thatcherienne est une pensée qui s'oppose complètement à la pensée de droite traditionnelle et originale.
C'est l'antithèse absolue.
Au fond, c'est une pensée individualiste, c'est une pensée qui ne reconnaît pas la tradition, qui vit dans une sorte de présent perpétuel.
Margaret Thatcher disait même que la société n'existe pas. Donc comment des gens qui se disent de droite ou à droite peuvent se reconnaître dans quelqu'un qui dit que la société n'existe pas? On est en pleine folie.
On est bien d'accord.
Et donc,
Pascal Estéric.
Effectivement, il y a eu cette tradition, et je crois qu'on nous la conserverons, cette tradition de la pensée critique. Oui, il y a eu, il faut pas se cacher derrière son petit doigt, il y a eu des ruptures avec la pensée de droite que Éléments a tout à fait assumé, hein. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plutôt, et ce sera le sens du dossier d'Éléments, parce qu'il fallait un chiffre, alors j'en ai donné 7, les 7 ruptures de la pensée, et alors là j'ai mis droite, gauche, voilà. Et nous avons, le dossier donc est structuré autour de ces 7 ruptures. Donc c'est Olivier François l'a rappelé, les ruptures avec les thèmes de l'écologie, du libéralisme, avec les thèmes de la religion, les thèmes
même la géopolitique.
Oui, géopolitique, la question de l'Amérique, la question du différentialisme, racisme et différentialisme.
Même avec une rupture avec un certain biologisme, quand on regarde, de mon point de vue, oui. de jeune collaborateur et de jeune lecteur d'Éléments, je vois que les premiers numéros d'Éléments, il y a certains articles dans lesquels je me reconnais pas du tout, il faut bien le dire. Et d'ailleurs, de Benoît a mis les choses au clair dans son livre sur l'identité qui est paru, je crois, au début des années 2000, où je me rappelle, est-ce que je peux raconter cette anecdote incroyable de voir que cette rupture avec la droite continue. De Benoît avait fait cette conférence sur l'identité et il y avait dans la salle un certain nombre de personnes, notamment de la droite forte, enfin des gens proches de l'UMP. Et De Benoît expliquait ce qu'était l'identité, c'est-à-dire pas une sorte d'essence sur lequel on devait croire à l'essence de la race blanche qui ne bougerait pas et que l'identité serait quelque chose de fixe. Et ce jeune homme de l'UMP, dont je me rappelle très bien, demandant à Alain de Benoît, mais quand même, il y a quand même une différence entre les nègres et les blancs, entre les blancs et les bougnoules. Donc le racisme était du côté de l'homme de l'UMP, démocrate, bien peigné, etc., et pas du côté d'Alain de Benoît, qu'on a tellement d'ailleurs accusé et taxé d'être un horrible théoricien quasiment nazi. Moi, c'est comme ça qu'on le présentait parfois.
Exactement.
Que je trouvais l'anecdote intéressante.
Ouais, voilà. Vous avez raison. Et sur cette question-là, moi, il faut dire aussi que je l'ai fait aussi un peu pour moi, en fait. Je vais vous dire ce dossier. Tout simplement parce que ça m'a permis de regarder dans les archives, de regarder effectivement de mettre au clair cette réputation. Et j'ai trouvé des choses assez incroyables. Je vous signale quand même que 79, article de Guillaume Faye, la race blanche n'existe pas. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a aussi beaucoup de fantasmes véhiculés sur cette revue, qui est quand même assez sidérante, parce que si on fait le simple effort d'aller et de les regarder, toute la question sur la biologie, etc., ça a toujours été. Effectivement, il y avait eu des articles sur la biologie, mais on est en plein dans ce moment-là de la sociobiologie, de l'apparition de ces pour un public français de ces nouvelles ces nouvelles disciplines. Mais la réalité, c'est qu'il y a toujours eu des pour et des contre. Enfin, il y avait toujours quand même plusieurs tendances. On peut pas.
Il faut noter, Pascal, d'ailleurs, que cette.
Mais 79, un encadré de Guillaume Faye, dont on sait ce que. Voilà. Mais la race blanche n'existe pas. C'est quand même assez.
Il y a aussi une chose qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a des thèmes qui ont été abordés de façon forte, mais il y avait une raison. C'est que, par exemple, si on prend les Indo-Européens. À un moment, ils étaient totalement niés, malgré les travaux de Dumézil, de Benveniste, etc. Donc, à un moment, il a fallu réagir et mettre le paquet dessus. Mais une fois que la réaction a été faite, on passe à autre chose. Et parmi les gens qui ont la nostalgie de certains numéros, ils voudraient qu'on refasse les Indo-Européens à chaque fois, etc. Non, on l'a fait quand il fallait le faire, quand justement il fallait prendre la défense de Dumézil et démontrer que scientifiquement, oui, il y a une langue, il y a un peuple. Donc, effectivement, il y a des thèmes qui ont été abordés pour répondre à l'adversaire, mais une fois ces thèmes traités, on est même revenu sur certains en relativisant, par exemple la sociobiologie, etc. On est revenu dessus justement pour dire bah oui, mais il y a de nouvelles études qui prouvent que, parce que c'est ça aussi élément, c'est suivre ce qui se passe dans le monde, les nouvelles études, et si on s'est trompé, ce qui peut arriver, avoir la capacité de revenir dessus. Ça, je crois aussi, c'est très important.
Oui, parce que c'est quand même une revue qui a fait... Alors, Michel Thibault parlait de Dumézil, qui était quand même un peu connu, mais enfin, c'est vrai que ses thèses étaient quasiment pas lues, puis on les niait un peu. Il y avait même... son entrée à l'Académie française a posé même des problèmes. Mais il y a plein d'auteurs comme ça. Je pense à tout le travail qu'ils ont fait sur la révolution conservatrice et sur un auteur comme Carl Schmitt, qui aujourd'hui est étudié en université, traduit, etc. À l'époque où Élément parle de Carl Schmitt, il y a quasiment rien. Ouais. Hein, c'est un...
Mauvaise
pour les universitaires...
Les plus mauvaises ventes d'Élément de tous les temps.
Ouais, c'est un... choisis dans le milieu universitaire français, et que français, parce qu'il faut savoir qu'en en Italie, en Angleterre, en Espagne, partout il est traduit, en France, dans le monde universitaire, non, il n'est pas traduit. Et ils vont aller jusqu'au bout de leur démarche, faire travailler, traduire, expliquer la pensée conservatrice allemande de l'époque, Olivier François.
Notons d'ailleurs que les autocritiques au sein d'Éléments, moi c'est mon regard extérieur aussi, notamment de la part d'Alain de Benoît, mais même de l'équipe d'Éléments, ne sont jamais des ralliements au système. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure de la question du racialisme ou de l'ethno-différentialisme, etc., qui pèse encore quand même sur l'histoire de cette revue. Quand de Benoît, dans son livre sur l'identité ou dans certains articles de Nouvelle École ou d'Éléments, remet en cause une certaine vue étroite de la race, qui avait quand même, à un moment donné, été sa thèse fondamentale, à mon avis, mais ça c'est mon avis, il ne se rallie pas non plus à une sorte d'égalitarisme joyeux qui est plaidé par le système et par SOS Racisme. Il parle encore aussi des, non pas de la race, mais du fait qu'il y a aussi dans l'homme de l'inné, pas simplement de l'acquis, etc. Il en parle très librement, mais c'est jamais un ralliement. C'est-à-dire que même dans les milieux de droite, on reproche parfois à Alain de Benoît une certaine complaisance pour la gauche, et dire au fond c'est un traître, etc. On ne citera personne. Moi, je vois rarement de Benoît, au contraire. Ouais. Je trouve que c'est une des grandes forces à la fois de Benoît et d'Éléments, c'est qu'elle s'intéresse à la pensée de gauche pour pouvoir avancer, pour pouvoir approfondir certains thèmes, mais sans se rallier. C'est pas un effet de mode. On va pas parler de la décroissance parce que ça fait plaisir à Paul Ariès, en quelque sorte.
Alors, on va faire une légère pause. Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie, dans les Chroniques de la Vieille Europe. On fait une légère pause musicale. Et puis, Olivier François, vous parliez de Alain de Benoît. Ben, on va la voir au téléphone juste après. Retour dans les Chroniques de la Vieille Europe. Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie et dans le studio, une petite partie, parce que le studio serait beaucoup trop petit pour recevoir tous les collaborateurs de la revue Éléments qui fête ses 40 ans. Alors, on vient de parler avec nos invités, Olivier François, Michel Thibault, Christian Brosio et Pascal Essérick, de nos souvenirs, de ce qu'on avait pensé, et on va avoir l'un des piliers, celui qui était là dès le numéro 1, c'est Michel Marmin. Michel Marmin, vous m'entendez ?
Je vous entends.
Bonsoir Michel. Je vais commencer par le... Effectivement, en septembre 73 sort le premier numéro, qui est en fait un petit bulletin qui est plus un bulletin de liaison du Grèce. Comment va se développer le élément d'aujourd'hui? C'était pas le but au départ de faire un journal tel qu'il est maintenant?
Si, c'était le but dès le départ. Parce que en fait, là, je pense que vous faites une petite confusion. Il y a eu un bulletin de liaison du Grèce qui s'appelait effectivement Élément, mais qui n'a rien à voir, qui est tout à fait autre chose que ce qu'Élément même. Et le premier numéro d'Élément, c'est un numéro qui est encore modeste par le nombre de pages, mais c'est déjà l'Élément d'aujourd'hui. Il a évolué ensuite en pagination, la maquette a évolué, mais dès le départ, c'était une revue qui était destinée non seulement à l'abonnement, mais au kiosque. Ce n'était plus un bulletin intérieur. ce qu'avait été l'ancien élément.
Parce que à l'époque, la revue phare, enfin celle qui dont on retrouve tout le travail de la Nouvelle Droite, c'est Nouvelle École. C'était élément, c'était quoi? Une vulgarisation de ce travail, une façon d'avoir un public plus haut, plus grand?
Oui et non, c'est-à-dire que c'était, effectivement, ça visait un public plus large que Nouvelle École, mais c'était une formule tout à fait différente. C'était, ça voulait être une sorte de magazine en prise sur l'actualité immédiate, y compris culturelle, mais politique aussi, enfin l'actualité générale, sur laquelle on voulait porter un regard qui était de celui de ce qu'on n'appelait pas encore la Nouvelle Droite, mais qui était celui de... effectivement, qu'on trouvait dans Nouvelle École, mais là, développé de façon beaucoup plus théorique, beaucoup plus fondamentale, alors qu'Élément était un journal qui se voulait un magazine. Hein. Et d'ailleurs, la maquette, la première maquette d'Élément, qui a été la base d'Élément pendant des années, voire des décennies, a été créée par un homme de presse, enfin par un directeur artistique de professionnel. Donc, il y avait vraiment, dès le départ, cette volonté que ce soit un magazine, non seulement un magazine des idées, mais un magazine des idées en prise sur l'actualité au sens le plus large du terme.
Question de Pascal Essérique.
Oui, quelle était l'ambiance lors de la création de ce premier numéro?
Écoutez, c'est pas facile de répondre parce que l'ambiance, c'était une ambiance de camarades. Hein, mais disons qu'Élément n'avait pas encore beaucoup d'ampleur, donc il n'y avait pas de réunion de rédaction. Ça s'est mené un petit peu plus tard. Dans un premier temps, ça a été fait par 4 ou 5 personnes, dont la principale, qui malheureusement n'est plus là pour en témoigner, est évidemment Jean-Claude Vallat, qui non seulement en était le rédacteur en chef, pardon, l'animateur, mais le réalisateur, c'est-à-dire que tous les problèmes de maquette, de fabrication, etc., étaient sous la responsabilité de Jean-Claude Vallat. J'en profite d'ailleurs pour signaler que ces mémoires vont paraître très prochainement, vraisemblablement au mois de janvier ou février, aux éditions Alexis Pharmac, et enfin, on en reparlera. Mais dans ses mémoires, Jean-Claude évoque de façon très très précise la naissance d'éléments, son développement. Personnellement, j'étais associé dès le départ, effectivement, j'étais l'un des gens qui écrivait, l'une des personnes qui écrivait dans Éléments, mais je n'en avais pas encore la responsabilité, c'est venu plus tard.
Ce qui est impressionnant, c'est que dès les premiers numéros, vous arrivez, il y a la petite équipe, effectivement, le noyau dur de Jean-Claude Vallat, d'Alain de Benoît, de vous-même, mais vous arrivez à avoir des signatures assez prestigieuses dès le départ. Jean Cau, Louis Powels, Pierre Gripari, Louis Rougier, c'est incroyable, ou des entretiens, j'ai vu ça en revoyant les numéros d'Anthony Burgess, qui était quand même le grand écrivain de l'époque. Vous avez fait comment? Parce qu'aujourd'hui, on aurait du mal à refaire exactement la même chose.
Écoutez, on a fait comment? Je me souviens plus très bien. Mais lorsque vous citez Louis Powels, Louis Rougier, et je ne sais plus qui vous avez cité, de Brinzen peut-être.
Jean Cau,
oui, mais il n'y avait pas grand mérite, parce que c'était des auteurs dont nous nous prévalions, que nous connaissions. Ils faisaient partie de notre famille. Ça a été... plus exceptionnel avec effectivement des personnalités comme Anthony Burgess qui est arrivé dans Éléments de façon...
Je crois que dès le numéro 2, hein, c'est ça?
2 ou 3, oui. Il a participé à un colloque,
Du Grèce, oui, effectivement.
Voilà, c'est ça.
C'est alors, avec des propos de qui aujourd'hui... le mènerait tout droit à la chambre correctionnelle, je pense.
Meilleure mémoire que moi, parce que je ne m'en souviens plus. À l'instant, en tout cas.
Est-ce que c'était une période plus facile pour monter une revue d'idées? Il y en avait pas à droite, vous étiez quasiment les premiers à monter.
Il y en avait d'autres, mais qui étaient des revues plus traditionnelles, je dirais, hein, de la mouvance d'Action française ou catholique traditionnaliste, ça existait déjà.
Hein, oui, mais qui était plus théorique, parce que on en parlait tout à l'heure. La chose qui nous a toujours frappé dans la revue Éléments, c'est quand même son écriture, sa facilité de lecture. Est-ce que ça a été dès le départ quelque chose d'important que les lecteurs, oui, avec des sujets quand même très difficiles, puissent la lire avec un style très journalistique?
Oui, alors il y a pour cela une raison et un objectif. La raison, c'est que élément a été fait par des journalistes professionnels. Jean-Claude Vallat était à Valence Actuelle, j'étais moi-même à Valence Actuelle, Alain Benoît écrivait dans des tas de journaux et revues, des Valences Actuelles aussi. D'autres collaborateurs dont les noms m'échappent venaient ou du Figaro, de Valences Actuelles. Enfin, il y avait tout un milieu de journalistes de la future Nouvelle Droite qui étaient des journalistes professionnels. Donc, ils ont fait élément en journalistes professionnels et en pensant, évidemment, au public. Ce que ne font pas toujours les philosophes ou les écrivains qui écrivent dans des revues purement théoriques.
Olivier François.
Oui, on a parfois reproché à la Nouvelle Droite et à l'Aimant, donc, d'avoir une stratégie, presque des stratégies secrètes, occultes, de conquête du pouvoir, etc. Et en vous entendant, Michel Marmin, on a l'impression, au fond aussi, qu'Aimant, c'est une histoire d'amitié avec des individualités très différentes et de gens qui n'ont justement aucune stratégie de séduction, qui ne veulent conquérir aucun public et qui sont guidés aussi par leur goût, par leur goût des idées, leur goût de la littérature, du cinéma pour vous, leur goût des idées et de la géopolitique, de la science politique pour Alain de Benoît ou pour d'autres. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Parce que c'est vrai que ça reste, même dans les milieux de droite, on dit oui, mais quand Alain de Benoît dit ça, en fait, il pense autre chose. Enfin, il y a toujours une sorte de truc étrange.
Oui, non, alors là, il y a deux choses à dire. D'abord, je pense qu'Alain de Benoît a toujours dit ce qu'il pensait, ouais. Moi aussi. Quelquefois, je me suis trompé, mais quand je me suis trompé, je pensais mon erreur, si je puis dire. Il y avait stratégie pour Aimant. La stratégie d'Aimant, c'était de le diffuser au maximum. Et je dirais effectivement, comme on dit aujourd'hui, un peu de s'éclater, hein, d'écrire dans Aimant ce qu'on ne pouvait pas écrire dans Valence Actuelle ou bientôt dans le Figaro. Enfin, on était quand même plus libre puisque c'était, nous étions nos propres patrons. La stratégie, il y en avait une quand même, mais c'était pas celle d'Aimant. Il y a eu une stratégie du Grèce, ça c'est sûr, de pénétrer des milieux de presse. Déjà, la preuve, c'est qu'on a réussi sur ce plan-là, puisque, je dis, Figaro, Valence Actuelle, etc. Et d'avoir une stratégie d'influence. Ça c'était vrai, mais c'est plus vrai pour la mouvance générale du Grèce que pour Aimant proprement dit. Aimant, d'ailleurs, s'étend assez rapidement. Je ne sais pas si ça se chiffre en combien de numéros, mais ne faisant plus référence directement aux Grèces. Bon, ça c'est une fiction, parce qu'en fait c'était très très lié évidemment. Mais la revue a tenu rapidement quand même à marquer son autonomie. Et là, honnêtement, pour la revue elle-même, il n'y avait pas d'autre stratégie que de la faire, hein, que de la faire et de la diffuser. Hein. D'ailleurs, s'il y a une autre stratégie, on sera aperçu très vite que ce n'était pas une bonne stratégie, et les banques seraient peut-être arrêtées au bout de 10 numéros. Hein.
Mais c'était une stratégie pour 159.
C'était une stratégie pour faire gagner vos idées et pas simplement pour aller vers un public de droite et pour le flatter pour aller dans le sens du poil, si je puis dire.
Non, ça pas du tout, effectivement. Non, c'était pour développer nos idées, les faire connaître et essayer de convaincre à la fois des lecteurs et puis éventuellement des personnalités qu'on a pu intéresser, influencer, j'en sais rien, parce que en général, sur des personnalités très connues, notamment dans le monde politique, quand on croit avoir influencé quelqu'un, on s'aperçoit que 10 ans après, il n'en reste absolument rien. Donc, ça aurait été chimérique. Non, là, vraiment, la vraie motivation de faire Aimant, c'est de faire une revue qui nous ressemble, dans laquelle on a vraiment plaisir à écrire et où on se retrouve complètement. Quoi, ça a été ça, et ça a bien resté d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui.
Question de Michel Thibault.
Bonsoir Michel. Aimant, c'est une grande aventure des idées, mais c'est aussi une aventure de personnes. Comment se faisaient ces réunions de rédaction? Est-ce que les personnes se voyaient souvent? Quel était le lien, en fait, qui pouvait unir?
Bon, alors, il y a eu le lien, il s'est fait assez naturellement via le Grèce, parce que la plupart des premiers collaborateurs d'Aimant étaient également membres du Grèce. Donc, le lien était déjà là, avant même que la revue soit créée. Et ensuite, ça s'est fait par affinité, par capillarité. Je reviens d'ailleurs, ce que je disais, c'est que des souvenirs qu'au départ, nous sommes des journalistes. Hein, il y en aurait eu bien d'autres. Hein, Jean-François Gaultier, Joël Le Creuset, enfin Philippe Conrad. Tous étaient des gens de presse, complètement ou partiellement. Donc le lien, oui, était là, quoi.
Était déjà là. Et je dois dire que c'est vrai que lorsqu'on vient à Éléments, c'était et c'est toujours très impressionnant pour une personne nouvelle, tout d'un coup, d'essayer d'écrire. Quand on passe derrière, ben Michel Marmin, Alain Benoît, Jean-Claude Vallat, etc. C'est impressionnant.
C'est pour ça, mon cher Michel.
Oui, je sais pas, parce que nous avons quand même fait venir à nous beaucoup de nos meilleurs collaborateurs qui au départ n'étaient pas du tout ni des écrivains ni des journalistes, hein, et qui le sont devenus.
Bien sûr.
Cet élément était d'ailleurs aussi une petite école de formation de ce point de vue-là.
Oui, hein, justement, je me disais, est-ce que on connaît maintenant l'histoire du Figaro Magazine, est-ce que le Figaro Magazine aurait eu ce succès s'il n'y avait pas eu l'équipe d'éléments avant et tout le travail qui avait été fait par Jean-Claude Vallat?
Je ne pense pas. Hein. Je pense que la réussite du Figaro Magazine tient à trois facteurs principaux. L'un, c'est, faut quand même pas l'oublier, c'est Robert Hersant qui a décidé de se lancer. Deuxièmement, c'est Louis Powels qui l'a créé. Et troisièmement, c'est l'équipe que Louis Powels s'est réuni. Et comme par hasard, l'équipe de Louis Powels, c'était l'équipe d'Éléments.
Ouais.
En gros, hein, je simplifie, mais c'est à peu près ça.
C'est
un secret que de le dire.
Pascal Essérick.
Oui, Éléments comme école, finalement, une petite école de formation, c'est tout à fait juste. Je me suis amusé à compter le nombre de signatures, hein, de personnes qui ont écrit dans Éléments depuis 40 ans. On dépasse les 200.
Ah j'ai pas fait ce compte, mais je suis quand même surpris, hein. Je pensais pas qu'il y en avait autant.
Voilà.
C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est d'ailleurs, quand on parlait du Figaro Magazine, on a parlé de l'heure actuelle, du Figaro Magazine, faut pas oublier un troisième titre qui aussi s'est fait parce qu'il y a eu Éléments et ce que ça implique, c'est
Magazine Hebdo.
Hein, dont la durée a été malheureusement moindre, hein, puisque ça a duré un peu moins de 2 ans, mais ça a été quand même une grande aventure de presse également. Et là, comme par hasard, le directeur de la rédaction était Jean-Claude Vallat, le secrétaire général de la rédaction était Michel Marmin, et le directeur tout court était Alain Lefebvre, homme de presse et membre du Greffe.
Justement sur ces aventures journalistiques, j'ai plus souvenir, mais je crois bien que Éléments a été souvent pillé par ces articles et qu'il y a même eu des plagiats, c'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui ont recopié entièrement des articles d'Éléments.
Oui, en travaillant sur le dossier, j'ai eu la grande surprise de voir que il y a eu une page dans les années c'est dans les années 80, un petit peu vengeresse contre Charlie Hebdo, parce que Charlie Hebdo avait intégralement, copié Éléments. Voilà.
C'est une histoire très très curieuse d'ailleurs, parce que ça, elle vaut la peine d'être racontée, si je ne me trompe pas. L'auteur de ce plagiat dans Charlie Hebdo s'appelle
Jean-Marie de Buchère.
Jean-Marie de Buchère. Alors, effectivement, on lui a taillé un petit costard pas très très gentil dans Éléments. Je crois que l'article s'appelait « Le Belge de Charlie Hebdo », ce qui est du racisme pur d'ailleurs. Enfin, bon. Et finalement, j'ai téléphoné, je sais plus comment c'est passé. Enfin, j'ai pris contact avec Jean-Marie de Buchère en lui expliquant que ce serait bien justement de nous expliquer. Et on s'est rencontrés, on est devenus les meilleurs copains, et Jean-Marie de Buchère est devenu un collaborateur occasionnel, mais collaborateur quand même d'Éléments.
Et voilà. C'est une belle histoire.
C'était un hommage qu'il voulait rendre à Éléments par ce plagiat, dans Charlie Hebdo. Ce qui...
ça relève de l'inconscient, probablement. il a été également collaborateur à Magazine Hebdo, d'ailleurs. Enfin, on était devenus très proches, quoi. Alors, faut savoir que pour en terminer avec l'anecdote, Jean-Marie de Buchère, c'est pas tout à fait par hasard si on s'est bien trouvé, ancien officier de la marine belge, guerre de Corée, copain avec, évidemment, le professeur Choron, lui-même ancien adjudant chef de la coloniale en Indochine. Alors, bon, ça fait, il y a des liens, quoi. Voilà.
On parlait au début de l'émission des ruptures, parce que c'est une revue qui effectivement est encensée aujourd'hui, mais enfin c'est une revue qui a eu des certaines ruptures avec ce qu'on appelle la droite. Quel est pour vous le souvenir d'une rupture qui a vraiment qui vous a marqué ou qui a, je dirais, rendu furieux les gens de la droite de l'époque avec un article d'Élément ou un dossier?
Ah, je pense que la grosse rupture, ça a été la rupture avec l'occidentalisme, l'Alliance Atlantique et les États-Unis. C'est une rupture très forte et très ressentie parce que à l'époque nous étions, enfin quand je dis nous, moi-même en tout cas, non, Jean-Claude Nevelin n'y était plus, mais j'étais encore à Valence Actuelle, de même que Patrice de Plainquette, qui était un collaborateur d'Éléments également à l'époque, et ça a été très très mal pris, hein, forcément, puisque Valence Actuelle était un journal atlantiste, pro-américain, etc. Ça a été la grande rupture. Il y a aussi la rupture sur le libéralisme, mais c'était la suite, en fait, hein. Rompre avec le fétichisme occidental et atlantique, c'était nécessairement rompre avec le libéralisme et a fortiori l'ultralibéralisme et ce qui suivra, quoi. C'était ça. Pour moi, c'était ça, la grande rupture. Je n'ai plus la date exactement en tête. Ça coïncidait d'ailleurs avec la parution du livre de Janco, enfin, Pourquoi la France, mais c'était pourquoi une coïncidence. On s'est trouvé au même moment à faire la même analyse et arriver aux mêmes conclusions.
Et comme disait Christian Brosio aussi, avec le numéro de Nouvelle École sur l'Amérique, qui a dû.
Oui, bah, c'est ça. Ouais, oui, c'est voilà. Ça. Oui,
on pourrait noter aussi.
C'est 75.
Olivier François.
On pourrait noter aussi une rupture avec un certain. Mais ça va avec l'occidentalisme, avec un certain prométhéisme technicien, puisque quand on regarde certains numéros d'Éléments des années 70, on a attaquer Ivan Illich, Jacques Ellul, bah comme oui. Bah les oui. Espèces de peste, une peste chrétienne, alors qu'aujourd'hui, il se trouverait très bien dans l'élément.
Ah, mais tout à fait. Bah, il y a eu un numéro sur l'écologie dont nous ne pourrions pas reprendre une seule ligne. Quoi. Mais ça, c'est la vie. Hein. Heureusement, en cours de route, on apprend des choses et on évolue et on affine. Enfin, bref.
C'est d'ailleurs ça qui me paraît très important dans cette revue. C'est une revue qui c'est le prototype d'une revue vivante qui sait évoluer sans cesse. Et qui sait évoluer avec des collaborateurs qui ont toujours eu, et ça je crois que ça a toujours existé depuis l'origine, des avis différents, des points de vue différents.
Et cher Christian, qui évolue sans s'embourgeoiser. Parce qu'il y a des revues de droite qui évoluent, mais rallier le libéralisme. Ou le
racisme,
pouvoir.
Là, c'est tout à fait le contraire. Oui,
là, on risque peu. Hein,
voilà. Michel Barbin, une dernière question. C'est une revue qui a agacé quand même beaucoup de gens. Et on le disait tout à l'heure autour de cette table, on a tous en tête un numéro qui nous a agacé. Est-ce que vous-même, en ayant écrit pendant 40 ans, est-ce qu'il y a un numéro où vous n'en êtes pas fier, où vous n'êtes pas content de ce qui a été marqué? Alors, je ne dis pas avec le recul, mais qui ne correspondait pas du tout à votre pensée du moment.
Ah non, ça, honnêtement, non. Il y a des numéros, on en a parlé, le numéro sur l'écologie, ça c'est certain qu'on ne l'en ferait pas, ou si on le faisait, on le ferait dans le sens quasiment inverse. Non, il n'y a pas de numéro que je regrette. Il y a quelques articles que je regrette, dont deux ou trois des miens, hein, que je regrette vraiment d'avoir écrit, parce que je pense que sur 40 ans d'activité journalistique, on n'est quand même pas à l'abri d'écrire des conneries, hein, et oui, il y a deux, trois articles que je regrette.
Bon, ben voilà.
Dont un de moi, mais bon. Je pense qu'il y a prescription 40 ans après.
Merci beaucoup, Michel Barbin, de votre participation. On vous laisse et puis on va en encore quelques minutes avant d'avoir Alain de Benoît, justement, pour continuer cette discussion. Il y a eu un pavé quand même dans la mare avec Éléments, mais qui était en fait la Nouvelle Droite, c'est sur la religion. Ce qu'on oublie peut-être à l'époque, c'est qu'ils ont été très sévères, la nouvelle droite a été très sévère avec la religion chrétienne. On a beaucoup fantasmé autour de cette religion païenne. Il y a certains journalistes, la dernière fois, il y avait Abel Mestre du Monde, adore, il est persuadé qu'on fait des cérémonies dans la forêt, nues, autour de feu. C'est une sorte de fantasme. Mais on oublie un peu que c'est une période, les années 70, à cette période, que le christianisme tel qu'il est, c'est un christianisme qui est très proche de Vatican II, très à gauche, et il y a tous les cathos de gauche, etc. à ce moment-là. Et on oublie un peu toute cette période-là, et que la revue Élément a été très critique aussi par rapport à cette religion qui avait quand même changé.
Et d'ailleurs, on peut noter que les articles les plus violents à l'époque dans Élément contre le christianisme sont les articles de Patrick de Plunkett, qui vient lui plutôt d'un milieu très catholique et qui retournait d'ailleurs dans un catholicisme d'ailleurs assez sympathique, puisqu'il est quand même décroissant, il est très anti-libéral, etc. Donc faut quand même lui accorder certaines qualités, enfin de grandes qualités aujourd'hui. Mais je me souviens d'avoir découvert un article où il parlait d'une réunion d'une réunion charismatique catholique de Thésée, voilà, où il décrit ça avec des mots d'une violence assez terrifiante.
Je vois très bien l'article dont vous parlez. C'est un article où il mêle aussi une critique là qui est très droitière de ce qui se passait dans le Larzac. C'est un article du numéro 3 ou 4. On est vraiment, c'est très très il faut juger aussi les articles par rapport à la jeunesse
comme disait Michel Marmin, il y a des articles qui ont énormément vieilli par rapport à la période qui
à la
jeunesse des auteurs de l'époque.
Vous avez 21 ans, 22, 23 ans, pas plus. Donc il y a eu, même si l'article en question est violent, mais il est bien mené quand même.
Évidemment.
Pascal et Cédric, dans ce numéro anniversaire qui va sortir incessamment sous peu, je sais qu'il est légèrement en retard, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans votre recherche un peu à la Gaston Lagaffe dans les archives d'éléments, avec votre lampe torche, qu'est-ce que vous avez découvert de choses?
Non, mais j'ai découvert
quelque chose d'incroyable.
Moi j'ai découvert des choses formidables. J'ai découvert une grande et belle interview d'Éric Rohmer.
Quelle année ça?
C'est dans les années, c'est le numéro 12.
Il faudra l'envoyer à son fils René Monza qui nous adore.
Non, mais en plus c'est une très belle interview sur Perceval, sur son film, sur Perceval le Gallois. Et puis un éloge de Fabrice Lucchini qui était pas du tout connu à l'époque, donc c'est assez drôle, rigolo. Effectivement, on ne s'en rend pas compte, mais avec en parcourant ces 158 numéros, c'est la variété des personnes qui ont été interrogées, qui ont donné des articles, qui ont. Moi, je suis frappé de cette diversité qui est assez grande.
On en a parlé plusieurs fois. En discutant de la revue, il y avait tout un travail aussi, parce qu'il y avait des jeunes auteurs, il y avait tout un travail de réécriture, de clarté des articles, etc. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte c'est ce que disait Michel Marmin, il fallait avoir un style journalistique avec des sujets qui n'étaient quand même pas faciles, parce que c'était pas simplement, on ne parlait pas d'un fait divers, ou Michel Thibault, justement là-dessus.
Oui, alors, quand on parle de Jeune Plume, il avait été créé je crois que c'était dans les années 80, la revue Cartouche, qui était faite 90, au départ, dans les années 80-90.
C'était un peu le sas pour avant d'entrer
à l'éléments. Tout à fait, pour que les jeunes s'essayent à l'écriture. Et quand la revue a disparu,
on a intégré
des pages cartouches de petites nouvelles dans Éléments. Et je voudrais demander à Pascal, si vous faites ses recherches, Est-ce qu'il a trouvé qu'il y avait une...
Des articles du jeune Pascal Essérick ?
Oui. Ah. Mais est-ce que, par exemple, on pourrait voir des numéros en disant, celui-ci, ça devait être Jean-Claude Vallat, qui était rédacteur en chef, celui-ci, c'était Charles Champetier, c'est celui-ci. Est-ce que chaque rédacteur en chef a dû apporter...
Ah oui, bien sûr.
Une patte particulière. Ah
oui. Alors là, oui, bien sûr, là on rentre dans le cœur d'éléments, dans le sens où, effectivement, Jean-Claude Vallat, avec une formation, et Michel Marmin le rappelait, qui était plus journalistique. En revanche, Charles Champetier, on était plus dans l'exploration des idées. On était plus dans la découverte intellectuelle. Il y a eu Charles Champetier, c'est 91-2001. Une décennie. Voilà. Et là, il y a eu un énorme travail de défrichage intellectuel avec des thèmes qui avaient été, pour le coup, très peu abordé auparavant. Je pense à des thèmes et des auteurs. Je pense à Guy Debord. Ça va de Guy Debord à la biotechnologie, en passant par l'écologie, etc. Tous ces thèmes-là, qui vont être après développés après dans les années 2000, sont en gestation pendant cette décennie qui a été une décennie assez riche malgré le fait que Éléments est perdu. Il y a des numéros où il y a peu de pages, on voit que
c'est des articles beaucoup plus longs, plus denses, hein. C'est une
période
mais
pas obligatoirement, hein. Il y a eu des très petits numéros, hein. Il y a eu toute une série sur La République, etc.
C'était même des numéros en 9-7.
Ouais, exactement, ouais. Où on voit qu'il y avait peu de moyens, mais en revanche, finalement, quand on... Alors, j'ai une vision qui est totalement déformée, puisque finalement, je ne les ai pas lus ou peu lus au moment où ça sortait, mais je les ai lus comme un livre, du 1 jusqu'au 159. C'est une période importante, en fait, en réalité, parce que juste avant, on tombe un peu... Là, vous citiez l'article de... le numéro sur Claude Autant-Lara. On est là à la limite d'éléments. C'est-à-dire qu'on est dans un élément très, 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 très journalistique. Et après, ça change. Et voilà, c'est quand même... Éléments, c'est pas du journalisme. Enfin, c'est du journalisme. C'est un mélange, quoi.
C'est un équilibre.
C'est un équilibre. Mais là, on était trop dans le journalisme.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie. Nous sommes en ce moment en train de parler de la revue Éléments qui fête ses 40 ans. 40 ans d'une revue d'idées qui marque son temps et qui marquera encore son temps. On va faire une légère petite pause et puis on va retrouver, après Michel Marmin, qui était l'un des premiers piliers de ce journal, le deuxième pilier et pas le moindre. On va avoir Alain de Benoît, mais juste avant, on va faire cette petite pause musicale. Dans le studio de Radio Courtoisie pour ces chroniques de la vieille Europe où nous fêtons avec une partie de la rédaction d'Éléments ces 40 ans, la revue de la nouvelle droite comme ça l'a été à une époque, elle ne l'est plus maintenant, non. C'est plus marqué sur la couverture.
C'est marqué le magazine des idées.
C'est le magazine des idées. Et alors maintenant, après avoir Michel Marmin qui était, comme je disais, l'un des premiers piliers de cette revue qui est parue en septembre 73, on a le deuxième et pas le moindre. Alain de Benoît, est-ce que vous m'entendez ?
Mais oui, je vous
vous entends. Bonsoir.
Bonsoir. On avait demandé à Michel tout à l'heure quel était le but de cette revue. Vous étiez, vous, à l'époque, en 73, à la tête de la revue Nouvelle École, qui était quand même une revue très universitaire. Est-ce que Élément, ça devait être la revue, je vais être dans la caricature, mais est-ce que c'était la revue de vulgarisation de la revue Nouvelle École, ou je me trompe complètement?
Non, on pourrait dans une certaine mesure dire cela, mais la revue Élément était faite pour s'adresser à un public plus large que Nouvelle École, incontestablement, et surtout, c'était une revue qui développer un certain nombre d'idées, mais à partir de l'actualité, ce que ne faisait pas du tout Nouvelle École.
Quel a été le, on en a parlé un tout petit peu, quel a été le rôle de Jean-Claude Vallat? Je pense que ça a été un moteur quand même pour la mise en forme de la revue par elle-même.
Ben, Jean-Claude Vallat a été pendant très longtemps le rédacteur en chef de la revue Élément. Il a été quelqu'un d'extrêmement talentueux. C'était un très grand journaliste professionnel. On sait que par la suite, il a été rédacteur en chef du Figaro Magazine, qu'il a travaillé à Magazine Hebdo, à d'autres titres. Et il était un ancien collaborateur de Valeurs Actuelles et du Spectacle du Monde. C'était un grand journaliste professionnel et c'était aussi un ami extrêmement cher. Élément, à ses débuts, a dû énormément de choses à Jean-Claude Vallat, qui s'en est occupé pendant très longtemps.
Alors, c'est un peu aussi la revue qui va commencer à faire connaître la Nouvelle Droite. Pour vous, quel est l'un des premiers numéros qui va vraiment faire connaître auprès de la presse, auprès des intellectuels, mais aussi auprès du grand public, la Nouvelle Droite? Est-ce qu'il y a un numéro bien précis qui, pour vous, ou un thème qui à l'époque, vous a marqué?
Non, je n'en ai pas l'impression. Je crois que c'est une accumulation de numéros qui étaient très ouverts, qui donnaient la parole à un très grand nombre de personnalité et qui a retenu l'attention de beaucoup de gens, parmi lesquels l'écrivain bien connu Louis Powells, qui quelques années plus tard allait lancer le Figaro Dimanche, puis le Figaro Magazine.
Et est-ce que vous avez l'impression, enfin, on en parlait justement tout à l'heure avec Michel, on va avoir les mêmes thèmes. Est-ce que le Figaro Magazine aurait eu cette formule s'il n'y avait pas eu Élément avant?
Je ne sais pas s'il aurait eu la même formule, mais il est certain qu'il n'aurait pas eu la même équipe. Lorsque Louis Powells s'est vu proposer par Robert Hersan, qui était alors le propriétaire du Figaro, l'idée de lancer un magazine à l'époque gratuit, en supplément du Figaro Quotidien, je me souviens très bien que Louis Powells avait mis comme condition qu'il ferait ce nouveau titre avec l'équipe d'Éléments et avec les journalistes dont il avait fait la connaissance. Donc il y a eu très très vite une grande symbiose.
Question d'Olivier François.
Est-ce qu'il n'y avait pas un malentendu à l'époque entre, parce que vous nous parlez de Robert Hersan, pour beaucoup de nos jeunes auditeurs, Robert Hersan est quand même sent un peu le soufre en tout cas. Et est-ce qu'il n'y avait pas un malentendu dès le départ entre la jeune équipe d'Éléments à l'époque et quand même le Figaro Magazine, en tout cas du côté de Robert Hersan, ce qui explique d'ailleurs la fin de l'histoire en quelque sorte. Est-ce que à l'origine il n'y avait pas un problème?
Je ne crois pas qu'il y avait véritablement un problème. Robert Hersan était un homme de presse, il avait lancé un véritable empire de presse, si l'on peut dire, et il avait pleine confiance dans Louis Powells, qui était lui-même quelqu'un qui avait dans le passé lancé ou animé de nombreuses publications. Il avait pleine confiance en lui pour faire du Figaro Magazine un succès. Les personnes dont s'était entouré Louis Powells les idées qui pouvaient être amenées à diffuser, c'était assez loin de ses préoccupations. Il est évident que Robert Arsan n'était pas du tout ni un intellectuel, ni un homme d'idées. C'était un patron de presse. Et ce qui l'a évidemment frappé, c'est que Louis Pauwels, lorsqu'il a lancé le Figaro magazine, lui a donné tout de suite une très grande qualité, une très grande audience, puisque je pense qu'il faut le rappeler, dans la première, au bout d'un an à peu près, le Figaro magazine avait une diffusion d'environ à peu près 1 million d'exemplaires, chiffre qu'il n'a jamais retrouvé par la suite.
Alors bon, la revue, on va revenir un peu à la revue Élément parce que ils n'ont pas été à 1 million d'exemplaires. À l'époque, quand vous lancez la revue, il n'y a quasiment pas de concurrence à droite sur une revue d'idées. Il n'y a pas grand monde.
Non, il n'y a effectivement pas de concurrence, tout simplement parce que la droite, en particulier la vieille droite, ne s'intéresse pas beaucoup aux idées, d'une manière générale. Ou alors, elle ne s'y intéresse que pour répéter des choses qu'elle a lues bien des années avant et dont elle a fait des slogans, mais sans chercher à aller beaucoup plus loin. Ce qui a donné à Élément une marque tout à fait particulière, c'était à la fois de véhiculer une conception du monde, de s'intéresser passionnément aux idées et en même temps d'être très attentive à toutes les évolutions, à toutes les nouveautés. Ce qui explique que Élément, au cours de son histoire, d'abord s'est rarement trompé dans ses analyses et d'autre part n'est jamais resté sur un discours statique qui se serait borné à répéter un petit catéchisme.
Pascal Essérick.
Alors malgré tout, les premiers numéros d'Élément, hein, du 1 au 10 par exemple, il y a des entretiens avec Jean Anouilh, on est en terrain, comment dire, connu. Oui, avec ce... Allô ?
Oui, je vous écoute.
Oui, on est en terrain connu, on est en terrain,
très à droite.
Oui, à droite, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs un bel entretien.
Oui, Jean Anouilh est un bon exemple, on pourrait certainement donner beaucoup d'autres. Mmh. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à cette époque-là, il y avait une génération d'intellectuels, d'écrivains, de poètes qui représentaient une droite déjà un peu ancienne, mais extrêmement vivace, intelligente, intéressante. Des hommes comme Georges Dumézil, comme Thierry Mounier, comme Louis Rougier.
Marcel Jouhandeau.
Oui, aussi, étaient des gens qui étaient encore très présents dans l'actualité et tout naturellement, nous leur donnions l'occasion de s'exprimer. Mm-hmm. L'objectif toujours était d'avoir l'audience la plus large, de ne pas être l'organe d'une petite chapelle, d'une petite communauté vivant refermée sur elle-même, mais au contraire de rechercher toujours une confrontation ouverte des idées de manière à rebondir en permanence sur l'actualité.
Oui, mais ce que voulait dire peut-être Pascal Essérick, c'est que ces premiers numéros, on voit que vous êtes encore, et c'est normal, très influencé par des gens comme Louis Rougier, Louis Pauwels, etc. Et que petit à petit, en lisant les numéros, c'est vrai qu'en reprenant, on s'aperçoit que là, vous dépassez les maîtres et que vous mettez votre vraie pensée en œuvre et vous la développez. Est-ce que vous avez eu cette impression-là ou est-ce que c'est arrivé naturellement avec le temps ?
Non, c'est une impression que nous avons eue, mais il y a deux choses qu'il faut distinguer. D'abord, il y a un phénomène de génération. Bien entendu, lorsque nous avions 20 ou 30 ans, il y avait toute une série de grandes personnalités installées qui avaient des choses à dire. Et ces gens-là, au bout de quelques années, ont disparu, tout simplement, et n'ont pas été remplacés. Et d'autre part, les idées que nous formulions se sont précisées. Nous avons parfois, nous nous sommes parfois engagés dans ce qu'on pourrait appeler des impasses théoriques, et puis nous avons aussi découvert d'autres problématiques. Donc notre objectif constant a été de renouveler le discours, et petit à petit, bien entendu, au fil des lectures, des rencontres, des évolutions, nous avons été amenés à formuler un corpus théorique, intellectuel, culturel, philosophique, au sens le plus large du terme, qui nous a permis de mieux préciser notre personnalité à l'intérieur du spectre plus général de ce qui était à ce moment-là les droites.
Et peut-être que d'ailleurs, justement, parce que le Pascal Ferry et notre ami le rappelaient, bien que Éléments commence dans un très à droite, en quelque sorte, vient des milieux, enfin, on connaît l'histoire d'Éléments, mais vous sortez très vite, contrairement, moi, pense, par exemple, à d'autres revues qui sont comparables à Éléments, du point de vue de l'excellence intellectuelle, en tout cas, comme La Nation française, vous sortez très vite aussi de la référence aux auteurs de droite et au monde de la droite. À La Nation française, malgré tous ces gens qui étaient encore intéressants à cette époque-là, de droite comme Molnier, qui participait d'ailleurs à la Nation française, me semble-t-il, Éléments va s'intéresser à des penseurs de gauche ou à des penseurs qui sont ailleurs, en quelque sorte.
Dès 70.
Je pense que c'est la singularité d'Éléments, malgré tout, dans ces revues intellectuelles de droite, de sortir de la droite, en quelque sorte.
Oui,
c'est une droite qui sort de la droite.
On peut dire cela. La comparaison avec La Nation française est intéressante, mais ne va pas très loin. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour La Nation française, qui avait été un hebdomadaire de très haut niveau et qui avait essayé de permettre à des gens qui venaient pour l'essentiel du milieu royaliste ou d'Action française d'accéder un petit peu à de nouveaux horizons dans une perspective plus large qui avait été définie par Pierre Boutang à l'époque. Mais l'objectif d'Éléments était évidemment très, très différent. Très vite, nous avons eu le sentiment que nous étions dans une époque qui était en train de changer. On allait vers la fin de la modernité, on allait vers la fin de ces grands récits, comme disait Jean-François Lyotard, qui avait organisé la modernité finissante, et nous avons bien vu que apparaissait dans des lieux inattendus des idées qui nous paraissaient intéressantes. Donc ce que nous nous sommes toujours refusés à faire, c'était à refuser une idée intéressante au prétexte qu'elle apparaissait dans un endroit de l'horizon politique auquel nous n'étions pas habitués. J'ai eu moi-même l'occasion d'écrire à de très nombreuses reprises que ce qui m'intéresse dans une idée, c'est qu'elle soit juste et non pas fausse, quelle que soit l'étiquette que l'on a pu lui décerner. Et puis, il faut bien dire aussi que l'historien des idées sait à quel point les idées parfois traversent les clivages politiques, les familles politiques. Donc c'est ce que nous appelions d'ailleurs notre démarche métapolitique. Et la démarche métapolitique, c'était de ne pas parler à partir d'un endroit, mais de parler à partir d'une conception du monde qui pouvait se nourrir d'idées justes provenant des horizons les plus différents.
Mais écoutez, merci Alain de Benoît. On va vous laisser. On a encore plein de gens à écouter derrière vous. Mais
oui, je m'en doute, car Éléments, c'est 40 ans. Et 40 ans, c'est déjà une histoire.
C'est déjà une histoire.
Et bien entendu, une histoire rare lorsque l'on parle des revues d'idées.
Merci beaucoup et on se reverra, je pense. Vous avez une actualité, vous allez avoir bientôt un livre en préparation
Oui, j'ai un livre qui doit paraître au début du mois de novembre aux éditions Pierre-Guillaume Deroux qui s'appellera « Les démons du bien » et qui portera notamment, pas exclusivement, mais en très grande partie, qui se présentera comme une critique de l'idéologie du genre. Et par conséquent, vous voyez que nous sommes là tout à fait dans l'actualité.
Dans l'actualité. Je vous remercie. On va pas faire de petite pause. On va reprendre très rapidement parce qu'on a encore quelqu'un au téléphone. Pendant que notre technicien, qui on lui a donné beaucoup de boulot, beaucoup de travail aujourd'hui, Pascal Séric, pour ce numéro, alors on va rassurer un peu les gens. Le numéro va être assez épais. Je crois qu'il va faire plus de 80 pages. Il y a ce fameux numéro chaque année qui était un peu plus gros. On ne va pas avoir que une recension des anciens non. numéros. Je crois qu'il y a des articles qui risquent même de faire un peu scandale, non?
Non, scandale.
Ah, quand même. Hein. Moi, j'ai vu des articles sur le racisme, etc. Ça va être un peu chaud quand même pour vous. Hein. Et beaucoup de choses sur la gauche. Hein.
Oui, oui.
Je vous laisse le temps. Qu'est-ce qu'on va avoir?
Alors, effectivement, oui, c'est un numéro c'est un numéro spécial, donc de 96 pages, et dans lequel donc il y aura ce dossier hein, sur l'histoire d'éléments, mais aussi un entretien avec Charles Robin qui est un jeune philosophe passé par l'extrême gauche, par le NPA et qui est l'auteur d'ailleurs de deux ouvrages sur le libéralisme et qui revient un petit peu sur à la fois sur son parcours et sur l'extrême gauche.
Voilà. Ça prouve que les choses changent en 40 ans. C'est avoir un auteur qui vient du NPA. Oh, il n'y en a pas dû en avoir beaucoup.
Du NPA, non, mais c'est quand même une constante de...
Alors, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie et nous terminons cette émission. Nous allons la terminer en beauté, cette émission de la vieille Europe et des 40 ans d'éléments, car nous avons par téléphone Arnaud Guillaume-Janin. Arnaud, est-ce que vous m'entendez?
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Alors, question traditionnelle qu'on a fait à tout le monde, quel a été pour vous le premier numéro d'éléments qui vous a marqué et qui a fait que vous avez décidé de continuer à le lire, puis ensuite même à écrire dedans?
Il y en a plusieurs. Je citerai peut-être deux ou trois numéros comme ça, au hasard, figurant dans ma mémoire. Le numéro qui s'intitulait, je me rappelle, « Pour en finir avec la civilisation occidentale », ce qui était tout un programme à l'époque qui rompait avec une certaine axiomatique droitière. Le numéro sur « Tiers-mondisme et cause des peuples » aussi, qui en quelque sorte plus tard correspondra au livre d'Alain de Benoît « Europe, tiers-monde, même combat ». Et puis peut-être aussi le numéro sur les deux visages du socialisme français.
Alors, pour vous, c'est une revue qui est importante, mais qu'est-ce qu'elle a marqué et quelle a été l'originalité dans sa forme et aussi dans son fond?
Je pense que éléments comme la mouvance de la Nouvelle Droite ont eu pour intérêt de dépoussiérer les idées à droite, de rompre avec un certain nombre d'idées reçues, de stéréotypes, de clichés venant de la droite, de la vieille droite ou de l'extrême droite, et d'essayer de reprendre à la droite intelligente ce qu'elle avait de bon et à la gauche ce qu'elle pouvait avoir également d'intéressant, tout en ne se réduisant ni à la gauche ni à la droite, mais en étant ailleurs, en se situant ailleurs. Moi-même, j'ai collaboré à Éléments à partir du début des années 90, en 1992, et c'est effectivement le travail de défrichage intellectuel qui a été opéré par Charles Champetier, qui a poursuivi en quelque sorte la mission qui avait été confiée à Jean-Claude Vallat et à Michel Marmin au sein de la rédaction, en chef d'Éléments, qui a permis d'approfondir un certain nombre de concepts, d'idées, et de marquer une vision du monde qui soit intéressante, sachant qu'il y avait plusieurs sensibilités qui pouvaient s'exprimer dans Éléments. Pierre-Henri Taguieff en avait dénombré d'ailleurs quatre dans les années 80, qui je crois encore en 90 peuvent toujours servir d'exemple édifiant. Il y avait la tendance traditionnaliste évolo-guénonienne, qui était la tendance que je représentais dans les années 90 quand j'écrivais dans Éléments, la tendance darwinienne représentée par Yves Christen, la tendance ethniste ou volkisch représentée par Pierre Vial, et la tendance futuriste ou la tendance postmoderne incarnée par Guillaume Faye. Voilà, donc il y avait à travers cette revue pluridisciplinaire et cette revue d'idées un nombre de sensibilités différentes qui s'exprimaient pour montrer en quoi précisément la droite et la nouvelle droite n'était pas comparable à ce que la droite, depuis 60 ans, 70 ans, avait pu faire dans son propre camp.
Est-ce qu'il y avait ses électeurs ?
Pendant toute cette décennie, j'ai évoqué tout à l'heure combien elle avait été riche. Il y a eu aussi, vous avez mené, votre activité a débordé du simple cadre d'éléments. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Il y a eu une activité notamment importante au moment des bombardements de l'OTAN contre la Serbie en 1999. C'était à l'époque où Laurent Ozon, Charles Champetier et moi-même avions créé le collectif Non à la guerre et où nous avions lancé une pétition pour que des gens connus ou moins connus puissent y figurer et faire pression sur le gouvernement d'alors et sur les élites d'alors afin de faire cesser cette guerre d'agression contre un pays européen, un pays frère qui était la Serbie, agressé par les États-Unis et l'Occident plus généralement. Et nous avions obtenu des noms importants comme ceux de l'abbé Pierre, de Gilles Perrault, du chanteur Renaud, de Gisèle Halimi, parmi les gens de gauche et des gens qui étaient très à droite aussi. Ça allait de Paul-Marie Couteau à Philippe de Saint-Robert, en passant par les gens de la Nouvelle Droite et d'autres personnes encore. Donc une pétition transversale, une pétition qui pouvait effectivement, dans une certaine mesure, s'inscrire dans la logique d'éléments, c'est-à-dire une logique à la fois radicale, virale et transversale face à l'idéologie dominante et face à une pratique politique dominante à l'époque.
Je voulais aussi vous demander, c'est un peu indiscret, votre premier article.
Alors, si je ne m'abuse, le premier article que j'ai écrit dans Éléments, ça doit être au début 1992, et c'était un article sur le sociologue Louis Dumont, à l'époque de la réédition de ses essais sur l'individualisme. Un article qui d'ailleurs mériterait peut-être aujourd'hui d'être revu et d'être peut-être amendé par votre serviteur parce que à l'époque j'en tenais pour une perception holiste et non individualiste à la lumière de l'œuvre de Louis Dumont, puisque Louis Dumont était indianiste et avait remarqué que le système des castes en Inde fonctionnait de façon holiste, c'est-à-dire une société traditionnelle et communautaire où le primat de la totalité sociale sur l'individu l'emportait, alors que la conception individualiste occidentale moderne faisait que on avait au contraire un primat de l'individu sur la totalité sociale ou communautaire. Et il me semble que à la lumière de ce que j'ai pu lire ensuite et sur les interrogations qui ont pu être les miennes, je pense que le holisme appartient de plein pied aux structures communautaires et holistes de l'Inde, mais qu'il n'y a pas possibilité de transposer ce schéma holiste en Europe, pour la simple et bonne raison, c'est que la personne ne peut pas fusionner avec le groupe, comme il est de mise dans le holisme, car le holisme est un système où la personne est dissoute dans le groupe, au lieu qu'en Europe, la personne a toujours eu sa singularité au sein du groupe, elle s'est toujours agrégée dans le groupe, dans la communauté, sans se faire absorber par elle. Donc un personnalisme communautaire me paraît être aujourd'hui plus défendable que le holisme traditionnel que nous avions peut-être tendance un jour, ou à l'époque, tendance un peu à exalter en quelque sorte.
Bon ben Arnaud, ce sera l'occasion d'un article.
Oui, c'est l'occasion d'un article.
Ce sera l'occasion d'un article.
D'ailleurs Arnaud, j'en profite, c'est un peu, on peut dire que la Nouvelle Droite est aussi l'héritière des non-conformistes des années 30 en quelque sorte.
Oui, mais ça sera une autre émission. Mon cher Arnaud, merci pour votre participation parce qu'il nous reste à peine 2 minutes.
Je pense
qu'on refera une autre émission sur ces 40 ans. Merci encore.
Exactement, merci, à très bientôt.
Alors, avant qu'on se quitte, je voudrais annoncer que le déjeuner anniversaire de Radio Courtoisie pour les 26 ans, on n'en est pas encore aux 40 ans, aura lieu le dimanche 17 novembre 2013 à 11h30 au pavillon des oiseaux dans le jardin d'acclimatation du Bois de Boulogne. Route de la Muette 75-116, métro le plus proche Pont de Neuilly plus ou Avenue de Madrid. Lors de ce déjeuner sera remis le prix Jean Ferré 2013. Alors inscription ouverte dès aujourd'hui au secrétariat de Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75-016 Paris, au 01 46 51 00 85. 01 46 51 00 85 et le prix est de 49 euros. Voilà, bah écoutez, on va se retrouver le mois prochain, on reprendra un rythme et on retrouvera pour les adeptes de Philippe Christel qui n'a pas pu venir, pas parce qu'il n'aime pas la revue Élément, c'est parce qu'il ne pouvait pas venir. Il n'y a pas de scission à la chronique de la vieille Europe. On se retrouve dans 4 semaines. D'ici là, vous pourrez réécouter sur le site de Radio Courtoisie ou jeudi soir en différé. Merci bien.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
It's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. He chose his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? They're going to make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.